Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour la seconde fois de l'année, la preuve par Z accueille les clés de l'orchestre. Et pas n'importe quelle clé de l'orchestre, puisque c'est de la 9e symphonie de Beethoven qu'il va maintenant être question. Alors à propos de symphonie, vous avez sûrement entendu parler de la fameuse malédiction qui veut qu'un compositeur meure toujours après avoir livré sa 9e symphonie. Bon, en fait, il s'agit d'une fake news, une sorte de légende quelque peu truquée, puisqu'en ce qui concerne Schubert, on a dû pratiquement inventer de toute pièce une 7e symphonie pour en arriver au nombre souhaité. Et que pour le cas de Bruckner, on ne tient pas compte de 2 symphonies de jeunesse. Alors il y a le cas de Mahler, un peu plus compliqué, puisqu'il est mort au milieu de sa 10e symphonie. Certes, il semble logique de ne considérer que la dernière symphonie entièrement terminée, à savoir la 9e. Sauf qu'on n'applique pas ce raisonnement à Bruckner, qui est mort quant à lui au milieu de sa 9e symphonie. Ce qui, entre nous soit dit, n'est pas très professionnel. Enfin bref, je ne sais pas si j'ai été clair, mais je peux vous assurer que cette histoire de malédiction de la 9e ne tient pas vraiment la route. Mais revenons à Beethoven et à ses 9 symphonies. Petite révision. La première symphonie ouvre le 19e siècle, puisqu'entendue pour la première fois à Vienne le 2 avril 1800, sous la direction du compositeur. Rappelez-vous de son menuet, tellement rapide qu'il est impossible de le danser. Après le menuet de la première symphonie en ut majeur, question date, c'est très simple. Vous n'avez qu'à ajouter 2 ans par symphonie, ce qui va par exemple nous donner 1802 pour la 2e symphonie et son final bondissant. Quelle joie, quel plaisir, quelle énergie dans cet extrait du final de la seconde symphonie. Mais 2 ans plus tard, et nous voici en 1804, avec une 3e symphonie dont la marche funèbre frappe considérablement l'esprit des Viennois. Et pendant que s'éloigne la si saisissante marche funèbre de la troisième symphonie, nous sautons encore 2 ans et nous nous retrouvons en 1806 au moment où Beethoven compose sa quatrième symphonie et son final tour à tour énergique et virtuose. Pour les 6 célèbres 4 coups du destin de la 5e symphonie, ce sera donc 1808. Et c'est l'occasion de changer de chef. Jusqu'à présent, je vous faisais écouter Arnoncourt. Pour le début de la 5e, je passe à Carlos Kleiber. Alors si vous avez bien suivi mes explications et que vous êtes bon élève, vous vous attendez sûrement à ce que je vous annonce la 6e symphonie, dite symphonie pastorale, pour l'année 1810. Eh bien pas du tout, car figurez-vous que Beethoven a composé parallèlement ses 5e et 6e symphonies, jouées toutes les deux pour la première fois le 22 décembre 1808. Les auditeurs en ont eu pour leur argent ce jour-là. Voici donc le début de la symphonie pastorale, cette fois-ci sous la direction de Leonard Bernstein. Pour la 7e symphonie, on saute 4 ans, logique, et on en arrive en 1812. Et cette fois-ci, je reviens à Carlos Kleiber pour son si célèbre Allegretto, dans mon esprit le pendant de la marche funèbre de la 3e symphonie. Thank you. Alors 1812 est également l'année de composition de la 8e symphonie, dont voici le tout début qui nous permet de retrouver Nicolaos Harnoncourt. Et nous en arrivons maintenant au monument de la 9e symphonie que Beethoven achève en février 1824. C'est le moment de rejoindre l'Orchestre Philharmonique de Radio France et son chef d'orchestre, Monsieur Mikko Franck. Nous voici dans l'auditorium. Le public fait silence. La séance peut commencer.
Bonjour, bienvenue à l'auditorium de la Maison de la Radio. J'ai le plaisir d'être en compagnie des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Monsieur Mikko Franck. Et nous allons passer un moment extraordinaire puisque nous allons parler de la 9e symphonie de Beethoven, une œuvre mythique, cette symphonie dont Verdi a dit qu'elle représentait l'alpha et l'oméga de la musique classique. Alors l'œuvre a été entendue pour la première fois le 7 mai 1824 au Grand Théâtre Impérial de Vienne. Et croyez-moi, c'était un événement. Tout d'abord, c'était un concert fleuve, comme on aimait bien les organiser à l'époque. Un concert composé exclusivement d'œuvres récentes de Beethoven. Et de plus, c'était Beethoven lui-même qui dirigeait ses œuvres, malgré sa surdité. Et Beethoven, c'était quelqu'un dans le cœur des Viennois. Le troisième membre de la Sainte Trinité musicale, après Mozart et Haydn. Alors, dans la première partie du concert, on avait déjà entendu une ouverture pour orchestre seul que venait de composer Beethoven et la plus grande partie de sa Missa Solemnis, le Kyrie, le Credo et l'Agnus Dei. Et maintenant, c'est la 9e symphonie, une œuvre de plus d'une heure, une œuvre, comme c'était l'usage à l'époque pour une symphonie, en quatre mouvements. Donc, le premier mouvement va commencer, le public fait silence, et voici ce qu'à l'époque, les auditeurs viennois ont entendu. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti en écoutant ce début, mais j'ai l'impression qu'on ne s'attache pas au thème ou aux mélodies. Non, on ressent comme des vagues, comme une explosion de puissance, comme un sentiment d'expansion, un sentiment de commencement du monde, de genèse. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Beethoven commence une œuvre avec ce côté un peu « au commencement étaient les ténèbres », vous voyez ce que je veux dire. Peut-être quelques mois plus tôt, il avait commencé sa dernière sonate, sa 32e sonate pour piano, de la manière suivante. Silence, zébrure, quelque chose va se passer. Certaines personnes se sont demandé si cette manière d'entrer dans l'œuvre ne provenait pas du talent d'improvisateur de Beethoven, parce que Beethoven était un grand virtuose, un grand pianiste, et surtout un grand virtuose de l'improvisation. Il s'était fait connaître d'ailleurs des Viennois, il était devenu la coqueluche des Viennois grâce à 3 concerts qu'il avait donnés en mars 1792, et on a de nombreux témoignages sur la manière dont il saisissait son auditoire quand il improvisait. Il a continué même d'improviser alors qu'il était sourd. En 1825 encore, on a des témoignages de concerts d'improvisation, et vers la fin de sa vie, Beethoven disait qu'il en avait un peu assez de formes trop strictes, de renfermer la musique de manière trop logique, et qu'il voulait essayer de composer comme il improvisait. Et j'ai un petit peu ressenti ça au début de ce premier mouvement de la 9e symphonie. Et vous allez voir que quand la musique progresse, on a un sentiment toujours organique. C'est presque la matière orchestrale elle-même qui va conduire le discours musical. Tenez, beaucoup plus loin dans le mouvement, au moment de la réexposition, eh bien, on a l'impression, quand on réentend le thème principal du mouvement, que c'est l'orchestre entier qui entre en fusion avec la masse des cordes, la masse des vents, unis en quelque sorte par les trémolos de la timbale. Vous avez reconnu, ce sont les mêmes éléments, mais ils ne sont pas présentés, orchestrés de la même manière. Plus loin, le thème se transforme encore. Au départ, il est puissant, rythmique, je parle du thème principal du mouvement. Mais la troisième fois que nous allons l'entendre d'une manière encore transformée, ce thème devient d'une étrange douceur, liée, legato, par les violons. Les violons qui semblent planer comme un esprit planerait au-dessus de l'eau. Thank you. Il est d'usage de considérer qu'il y a trois périodes chez Beethoven. La première, plus proche du style classique, plus directement héritée de Haydn et de Mozart. Il a travaillé un petit peu avec Haydn, il a pris quelques leçons avec lui à Vienne. Et quant à Mozart, il l'a rencontré un peu et puis il l'adorait naturellement. Mais la seconde période est plutôt considérée comme une période héroïque. Il faut se rappeler, bien sûr, des guerres napoléoniennes, des mouvements révolutionnaires. L'Église comme l'armée sont omniprésentes dans la société. Et on trouve dans cette période beaucoup de thèmes héroïques, beaucoup de rythmes de marche, par exemple, qu'il s'agisse de rythmes de marche glorieuses ou de marche funèbre. La plus connue étant la marche funèbre de la troisième symphonie. Et après, c'est la troisième période qui est celle où on a l'impression que Beethoven réinvente la musique, le monde sonore, où il augmente les effectifs de l'orchestre pour aller vers des orchestrations plus fournies, où il semble en quelque sorte exploser toutes les formes traditionnelles de la musique. Mais évidemment, ça n'est qu'une distinction théorique. Et on retrouve évidemment, même dans ses dernières œuvres, des éléments de la première et de la seconde manière. Et justement, j'en veux pour preuve la coda, donc la toute dernière partie du premier mouvement de notre 9e symphonie. On pourrait penser que Beethoven va terminer par quelques cadences et puis peut-être un dernier rappel des thèmes principaux. Eh bien non, il fait quelque chose d'un petit peu étrange. Il invente un nouveau thème, un thème de conclusion, en quelque sorte, qui justement a un rythme de marche funèbre, mais une marche funèbre en canon entre le groupe des cuivres et le groupe des bois. Et c'est seulement après cette sorte de petite marche funèbre que l'on réentendra une dernière fois le thème principal du mouvement, de façon à ce qu'en quelque sorte, nous terminions le mouvement comme nous l'avons commencé. Coda du premier mouvement. Le second mouvement de la 9e symphonie est un scherzo. Tout d'abord, il faut que je vous explique ce qu'est un scherzo. En fait, au moment où Beethoven arrive à Vienne, au moment où il compose ses premières œuvres, l'usage veut qu'on introduise toujours, en guise de deuxième ou de troisième mouvement, un menuet. Un menuet, c'est-à-dire une danse, qui veut dire que c'est un mouvement plutôt de détente, de divertissement. Sachant que le menuet commence à ne plus du tout être dansé à ce moment-là. C'est vraiment presque une danse de l'ancien temps. Mais enfin, Beethoven, au moment où il commence à composer, donc fin du 19e siècle, fait comme tout le monde, il écrit dans ses œuvres des menuets. Par exemple, si je compare avec sa première sonate pour piano, donc 1795, Beethoven a 25 ans. Voilà, au bout d'un moment, il va trouver que c'est un peu l'ancien monde, il va vouloir inventer quelque chose de nouveau, et il a l'idée d'un mouvement qui soit plus énergique, plus ludique aussi, et qu'il intitule Scherzo, Scherzo de l'italien. Scherzando, c'est en s'amusant, comme dans sa seconde sonate pour piano, l'année d'après. évidemment, au bout d'un moment, ce scherzo burlesque, ce scherzo d'humeur, d'humour, ne va pas le satisfaire. Petit à petit, il va faire du scherzo un moment de concentration de l'énergie. De pièce d'humour, le scherzo va devenir une pièce d'énergie. Et la plupart du temps, dans ces symphonies, le scherzo, c'est le troisième mouvement. On a un premier mouvement, rapide, avec des thèmes, toute une narration. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement lent. Et le troisième mouvement, le scherzo, la pièce d'énergie. Pour la première fois dans l'une de ses symphonies, Beethoven décide de mettre le scherzo en deuxième position. C'est-à-dire que cette incroyable énergie dont vous venez d'avoir une idée avec nos quatre extraits du premier mouvement, il va la conserver pour un mouvement d'une vitesse folle avec accumulation, crescendo, opposition de nuances, enfin tout l'art orchestral, musical, j'allais presque dire théâtral de Beethoven. Et cet art théâtral, il faut qu'on en parle un tout petit peu. Parce que je pense que c'est une des plus grandes caractéristiques de Beethoven. Là aussi, peut-être, ça lui est venu de sa pratique de concert, d'improvisateur. Il sait saisir l'auditoire. D'ailleurs, il le disait lui-même, quand j'ai le choix entre deux esquisses pour un thème, je ne choisis pas la version la plus belle, mais ce qui va le plus frapper l'imagination des auditeurs. Chez Beethoven, on a souvent des accélérations, des ralentis, des oppositions de nuances, le très fort succédant à un passage particulièrement doux. Il adore les silences, il adore saisir l'auditeur, pas seulement comme c'était le projet des classiques, être aimable, le divertir, lui faire passer un bon moment, mais vraiment se saisir en quelque sorte de lui. Et d'ailleurs, son thème le plus connu est par définition même un thème de théâtre. Quatre notes et le silence. Et là, tout le monde est suspendu et attend la suite. Eh bien, avant le scherzo de la 9e symphonie, il procède de la même manière par un coup de théâtre absolument extraordinaire puisque le scherzo est très rapide et commence très doucement. Donc, il décide de zébrer l'espace avec quatre interventions qui sont particulièrement puissantes, particulièrement caractéristiques, avec tout d'abord les cordes qui font et de nouveau les cordes. La timbale, merci Adriane, et maintenant le tutti d'orchestre. Ces quatre interventions qui forment une sorte d'arpège descendant. Pam pam pam, pam pam, pam pam. Après, le scherzo peut commencer. Je viens de prononcer le nom d'arpège et je voudrais juste, avant qu'on écoute le scherzo, m'arrêter un tout petit peu sur le fait que chez Beethoven, énormément de thèmes sont construits sur une figure d'arpège. Dès sa première sonate pour piano, ou quelques années plus tard, le début de la Passionata, côté des concertos, même chose, peut-être le concerto le plus connu, le troisième concerto, commence aussi par un arpège. Et le final de la cinquième symphonie, en majeur, arpège également. De véritables thèmes arpèges, et c'est donc par un arpège que va commencer le scherzo de la 9e symphonie, avant que nous n'écoutions cet incroyable mouvement rapide, cette incroyable concentration, accumulation d'énergie musicale et orchestrale. Thank you. Le scherzo de la 9e symphonie, et voilà maintenant nous en arrivons au 3e mouvement. Et on a quand même bien besoin d'un peu de tranquillité, de se retaper en quelque sorte, parce que on a eu quand même deux mouvements qui successivement nous ont projeté une énergie absolument incroyable. Le premier mouvement dure environ 15 minutes, le second mouvement également. Donc nous en arrivons au 3e mouvement, au mouvement lent. Et peut-être que c'est le moment de tenter de répondre à une question qui est souvent posée. Est-ce que Beethoven est un musicien classique ou un musicien romantique? Il est à la jonction, effectivement, des deux mondes. Et alors, bien sûr, il faut déjà se demander qu'est-ce que c'est qu'être romantique. Et peut-être que la première chose qu'on peut dire, c'est que le romantisme, c'est ce moment où on fait plus place aux sentiments personnels et à ce qu'on pourrait appeler, d'une manière générale, l'intériorité. Or, il me semble justement que Beethoven, dans ses mouvements lents, a une manière bien à lui d'ouvrir, dès les premières mesures, l'intériorité. Je ne peux pas le définir plus précisément que ce que je viens de dire, mais je peux vous donner quelques exemples au piano. Par exemple, le mouvement lent de la Passionata, la sonate pour piano. Vous avez remarqué que depuis le début de notre séance, je fais beaucoup de comparaisons avec les sonates, parce que chez Beethoven, il y a quand même trois grands massifs d'œuvres. Il y a tous les quatuors à cordes, d'un côté, il y a les 9 symphonies et il y a les 32 sonates. Et on a l'impression qu'il a tenu comme en quelque sorte trois journaux, vous voyez, comme des journaux intimes, des journaux de bord, qu'il avait trois grands livres qui étaient le livre des quatuors, le livre des symphonies et le livre des sonates pour piano. Je vous joue un début très célèbre, le début du mouvement lent de la sonate Appassionata. Encore plus célèbre, le début de la sonate au clair de lune. Je me souviens très bien quand j'étais adolescent. Dès que j'étais seul à la maison, je jouais en boucle ce début avec les larmes aux yeux. Et si un adolescent aime tant ces mouvements lents de Beethoven, c'est sûrement que c'est un petit peu de la musique romantique, vous ne croyez pas? J'en reviens maintenant à notre 9e symphonie et à son mouvement lent. Alors le mouvement lent de la 9e symphonie, il est extraordinaire et il va faire entendre deux thèmes en alternance, deux thèmes aussi beaux, aussi sublimes l'un que l'autre. Je commence évidemment par m'intéresser au premier thème qui nous fait entrer dans cette grande méditation, dans ce sublime adagio de 15 minutes, un thème qui est joué par les cordes, qui est joué en quatre phrases, quatre petites phrases par les cordes de l'orchestre, et les vents jouent un rôle. Tout d'abord, ils introduisent le mouvement juste avant la première phrase des cordes, vous allez voir, et puis après, à la fin de chacune des quatre phrases des cordes, ils font une sorte de petite ponctuation en écho. Donc nous écoutons le premier thème du 3e mouvement, du mouvement lent de la 9e symphonie, les quatre phrases des cordes, à chaque fois précédées et suivies du petit écho des vents. écoutant ça, j'ai l'impression que c'est une sorte de prière, mais de prière faite musique. Et vous savez, je vous ai parlé du fait qu'il y avait toujours une reprise des dernières notes de chaque phrase, des cordes, par les vents, et tout d'un coup, j'avais une vision qui me venait, c'était une église avec des fidèles. Quand les cordes jouent, c'est un peu comme si les fidèles chantaient, et de temps en temps, l'orgue ponctue le chant des fidèles, et l'orgue était incarné dans mon esprit à l'instant par les instruments à vent. D'ailleurs, ça me rappelle aussi une petite pièce pour piano, une bagatelle qu'il compose à la même époque. Parce que Beethoven a des grands chantiers sur les bras, il écrit sa gigantesque Missa Solemnis, sa 9e symphonie, mais de temps en temps, il se divertit, il se détend, se délasse en quelque sorte, avec de toutes petites pièces pour piano, vraiment minuscules, certaines ne font pas plus de 20 secondes, qu'il nomme des bagatelles. Et l'une de ces bagatelles en si bémol majeur, presque de la même époque, ressemble étrangement à ce que nous venons d'entendre. Jugez-en. Mais maintenant, je voudrais vous parler du second thème, puisque je vous ai dit qu'il y avait en permanence, pendant ce mouvement lent, une alternance entre deux thèmes. Et le deuxième est plus dense, peut-être plus romantique. Pour toujours continuer à comparer avec des pièces pour piano, il me fait un peu penser au thème du mouvement lent de la 30e sonate. Sauf que dans le thème, le deuxième thème du mouvement lent, vous allez entendre maintenant, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai presque l'impression d'entendre un thème de Brahms. Deuxième thème du mouvement lent. Très beau thème également, magnifique thème. Et donc on pourrait penser que Beethoven va alterner tout simplement son premier thème et son second thème. Le principe d'alternance est un des principes les plus habituels de la musique, et pas seulement de la musique classique. Dans une chanson, il y a couplet, refrain, etc. Mais, on l'a compris depuis le début du premier mouvement, Beethoven n'aime plus les formes trop symétriques. Va pour l'alternance. Mais au principe de l'alternance, il va rajouter celui de la variation. À chaque fois qu'un des deux thèmes va revenir, il donnera lieu à une variation. Et peut-être que je peux vous montrer au piano comment Beethoven, par exemple, compose sa première variation du premier thème, puisque nous venons d'entendre le second thème, donc retour du premier thème, le thème en si bémol. Celui dont j'ai dit que c'était une prière incarnée en musique. Donc, variation ornementale. Les violons de l'orchestre vont s'enrouler autour des notes principales du thème, un petit peu comme une glycine, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, les notes principales, je viens de vous les jouer. Ré, La, Si, Fa. Et les violons vont faire à chaque fois ces quatre notes, mais avec tout un tas de petites fioritures entre, ce qui donne Ré, La, Si, Fa. Et c'est ainsi que l'on varie ce thème qui revient tout en étant un peu différent. Première variation du premier thème, au violon. Thank you. j'adore cette variation du premier thème. Alors évidemment, vous l'avez compris, après la variation du premier thème, retour au second thème, un second thème qui lui aussi va connaître une certaine modification, peut-être une modification moins grande que pour le premier thème, mais tout de même, il est entendu dans une autre tonalité, plus aiguë, et surtout tout à l'heure, c'était les seconds violons de l'orchestre et les altos qui le jouaient chaleureusement dans le médium aigu. Maintenant, il va être donc plus aigu, plus lumineux au bois de l'orchestre. J'ai longtemps cru que le mouvement lent de la 9e symphonie était le premier exemple dans l'histoire de la musique de ce qu'on pourrait appeler des doubles variations. Parce que, habituellement, quand on fait une série de variations, on ne varie qu'un seul thème. Mais j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, un exemple de double variation peu connu, une pièce pour piano de Haydn, donc le maître de Beethoven un temps, justement. Il est possible qu'il s'en soit inspiré. Enfin, tout ça nous permet maintenant d'arriver à la seconde variation du premier thème. Nous retrouvons l'ornementation des violons, mais elle est plus fournie et puis accompagnée par quelque chose de très délicat, les pizzicato du reste du groupe des cordes. Donc deuxième variation du premier thème. Merveilleuse musique qui conjoint deux sentiments contraires. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que c'est à la fois tranquille et agité, les deux en même temps. À partir de là, le second thème disparaît, ne règne plus sur ce troisième mouvement que le premier thème, et nous allons arriver à un moment tout à fait incroyable, une coda. Coda, c'est comme ça qu'on désigne en musique la vraiment la toute fin d'un mouvement, une coda assez magique, une coda qui nous semble nous permettre de toucher le mystère du monde, une coda à la fois apaisante et réconciliée. Thank you.
Apaisés et réconciliés, nous le sommes bien sûr toujours lorsque nous écoutons France Inter. C'était la toute fin du troisième mouvement de la 9e symphonie de Beethoven par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck. Nous retrouverons l'Orchestre Philharmonique et son directeur musical la semaine prochaine pour le dernier mouvement de notre 9e symphonie, grandiose finale faisant résonner pour la première fois le célèbre hymne à la joie devenu depuis 1985 l'hymne officiel de l'Union Européenne. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Thibaut Perrine. À la semaine prochaine.